Alors, la parole est à la salle et avant, il y a une intervention autour de cette table. Voilà, la première, pas question, mais la première réaction, c'est autour de la table, c'est Jean-Pierre qui demande la parole. Et ensuite, vous avez bien évidemment la parole et vous vous présentez, puisqu'on enregistre. Et donc, il faut à chaque fois vous présenter pour qu'on puisse vous situer par rapport à votre question ou votre réaction.
Oui, moi je voulais juste parler de la crédibilité émouvante d'une image. Alors parfois, justement, on ne considère pas suffisamment la sonorité que peut porter aussi une image et une matière. Et j'ai vu des spectacles où je me suis parfois bouché les oreilles pour ne plus entendre le matériau, parce que je voyais bien qu'il n'était pas inscrit dans l'émotion du spectacle, et ça devenait un élément parasite. Alors quand on choisit une matière, il faut aussi savoir si on l'a choisie pour ses capacités expressives, mais aussi pour sa sonorité. Et quand on se trompe là-dessus, on peut finalement avoir de magnifiques images, mais gênées par un son produit qu'on ne voulait pas. C'était juste une petite parenthèse, parce que aujourd'hui on parle de matière, mais souvent d'un matériau, alors qu'il s'agit d'un espace tout entier qu'on manipule quand on fait du théâtre. Et cet espace tout entier, eh bien, il vit au niveau d'une durée, il vit au niveau de la lumière, il vit au niveau de la matière matériau, mais il vit aussi par rapport à ses sonorités, et c'est tout cet ensemble qui va donner la crédibilité, et il suffit qu'un de ces éléments-là se déplace et la crédibilité s'en va. À tel point que c'est parfois même plus fort que l'histoire. Moi, j'ai vu rentrer une petite anecdote comme ça en passant dans un bistrot, et je ne comprenais même pas ce que le type racontait, que j'étais déjà dans l'état du recevoir du rire. Il avait tous les ingrédients pour me faire rire. Et donc après, il me faisait rentrer, puisqu'il avait tous les ingrédients et que tous les ingrédients étaient justes, eh bien, je rentrais dans cet ailleurs très facilement. Eh bien, moi, j'ai voulu raconter souvent cette histoire que j'avais entendue, qui était assez rigolote comme ça, mais j'avais pas la capacité expressive de ce type, et ça, elle devenait vraiment nulle. Voilà. Bon, j'arrête, parce que je suis pas si nul que ça.
Merci. Vous avez la parole, donc c'est vrai que la première question c'est toujours la plus difficile, mais j'imagine que avec tout ce qui a été abordé, le matériau partenaire, la métaphore sur la scène, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à nous raconter ou des questions à poser.
Merci. Juste évoquer la relation qui existe entre les matériaux et la personne qui manipule. J'ai fabriqué pas mal de marionnettes, et quand j'envisage une construction, il y a d'abord une dialectique avec le metteur en scène, le dramaturge, et si j'ai affaire à des danseurs, je ne fabriquerai pas la même marionnette que si elle est confiée à un marionnettiste technicien du geste. Donc, le matériau est au service, bien sûr, de la dramaturgie, mais aussi au service du manipulateur. Et il est certain qu'un danseur ne manipulera pas une marionnette comme un comédien de verbe, qui sera plus empoté, entre guillemets, avec sa forme. Voilà. Pour rebondir ce que disait Monsieur Lescaut sur les sonorités, j'ai le souvenir d'un stage que j'ai organisé à partir de matériaux de récupération, mais qui était centré sur la sonorité des objets qui étaient fabriqués. nous avions comme contrainte de ne pas utiliser le langage articulé, mais que chaque marionnette, chaque forme, génère un bruit qui entrait dans la dramaturgie de ce qu'on montrait, de ce qu'on racontait. Et ça a été une expérience tout à fait extraordinaire, d'abord de choisir des matériaux pour leur sonorité, pour leur forme, pour leur assemblage, et avoir ainsi une dramaturgie qui se constituait à partir de sonorités et non pas du langage articulé. Et ça, ça a été absolument fantastique. C'était un point de départ qui était généré par la troupe Stomp, que vous connaissez sans doute, qui utilise des objets pour faire des batteries, des rythmes, qui est tout à fait extraordinaire.
Bonjour, je suis Christian Félix, la compagnie Le Petit Théâtre des Pendus. Je suis à la fois marionnettiste et clown. Et je voulais faire juste une petite remarque concernant la sonorité, mais via la langue des marionnettes que je fabrique à partir de matériaux aussi de récupération, comme beaucoup. Et en fait, bon, je trouve des matériaux sur la plage, dans les poubelles, dans les décharges, par terre. Et à partir de ce que j'ai en vrac, comme à partir d'un marc de café, je vois se dessiner des figures et elles apparaissent. Et quand elles sont montées, elles ont une démarche qui s'impose d'elles-mêmes et elles sont souvent assez handicapées d'ailleurs, parce qu'elles n'ont que ce qui a été trouvé sur elles. Et une fois qu'elles sont montées, à ce moment-là vient une voix. Et vous parliez tout à l'heure de son, de marionnettes. Là, c'est plutôt un langage, une glossolalie, c'est-à-dire qu'elles adoptent un langage qui n'existe pas, qui peut être attend à sonorité asiatique, à sonorité polonaise, peu importe. Voilà. Donc ces personnages ont aussi une matière vocale qui est indissociable de la créature née. Et cette matière circule aussi, parce qu'évidemment, il y a une parenté entre ces marionnettes-là. Et les voix, ces langues, disons, rejoignent une espèce de continuum linguistique. Après, on rentre dans toute une réflexion sur l'origine des langues, et qui fait qu'on a des langues assez proches d'une marionnette à une autre, et qui les caractérise dans quelque chose d'extrêmement subtil comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Catherine ? Oui, je me souviens de ce que je voulais vous dire. Quand on travaille avec des images vidéo, on va tellement loin dans la dématérialisation, qu'on est arrivé dans de la lumière, qu'on est arrivé dans des choses qui sont des moments de vie. Et je voulais dire qu'on est obligé à un moment de le rattacher à quelque chose d'extrêmement concret. Et nous, la solution qu'on a trouvée, c'est que, par exemple, quand on a besoin d'une image, on pourrait avoir besoin d'une image de... Je pense à une image, on avait une image, au lieu de la prendre sur l'Internet, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup des images maintenant à disposition, c'est comme les sons, on peut aller dans une banque d'images ou une banque de sons, on peut aussi travailler comme ça. Mais nous, on n'a pas travaillé comme ça, parce qu'on a eu besoin de remettre de la matière ailleurs. Et la matière qu'on a mis, c'est la nôtre. C'est-à-dire que on a filmé le petit jouet en bois qu'on avait sur la fenêtre, un petit Pinocchio, comme par hasard. Et c'est ce film de Pinocchio qu'on a remis dans le spectacle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun film, pratiquement aucun film, où je ne puisse dire « Cette image-là, elle vient de tel moment, tel endroit, telle heure, il faisait ça, et c'est ça pour moi. » Voilà.
J'ai aimé René Girard, ex-président et c'est son camarade. J'ai aimé ce qu'a dit Jean-Pierre sur ce son incongru.
J'ai bien aimé ce que disait Jean-Pierre sur ce son incongru qui est arrivé pendant un spectacle et qui ne correspondait pas au spectacle. Et ça me fait penser quand même, quand on parle de matière, pour un créateur, c'est être un peu réducteur que de parler seulement du bois, du fer, de la pierre. Parce que dans un spectacle, pour un créateur, le son est une matière, la musique est une matière, et j'oserais même dire que les silences sont des matières. Donc c'est vrai qu'on a à disposition, le créateur a à disposition, un échantillonnage énorme de matières qui ne peuvent pas se résumer à un pantin en bois ou en fer, et que ça fait partie de la création d'avoir tout ce panel, tout cet éventail de possibilités qu'on peut appeler aussi matière, mais peut-être que je déborde du sujet.
C'est des matières au service d'un espace. Olivier Vallet, la compagnie Les Rémouleurs. Alors, moi je voulais dire que sur la question de la matière, des gens qu'il est intéressant d'interroger, ce sont les physiciens. Nous, on sort d'une période de travail avec des physiciens du CNRS, du CEA et de l'Institut de spectrométrie physique à Grenoble pour mettre au point un film de savon, c'est-à-dire quelque chose comme une grande bulle plate et permanente qui fait plusieurs mètres carrés et qu'on peut manipuler, déformer à volonté et qui dure le temps du spectacle. Et c'était très intéressant de travailler sur la découverte et l'exploration d'un nouveau matériau. Et je pense que nous, marionnettistes, avons des choses à prendre dans ce domaine-là, du côté de ce qui se passe dans les sciences dures. Et par ailleurs, nous avons aussi des choses à leur apprendre. Ce sont des gens qui parlent aussi de manip. Et je sais que, par exemple, nous, on leur a appris des choses. Et on a perfectionné certaines de leurs manips. Donc c'est un échange qui peut être très fructueux. Voilà.
Gilbert Meyer, Théâtre TUBU. Je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit M. Girard, effectivement par rapport à la matière, et ayant été pendant plus de 15 ans sur la communauté Emmaüs de Strasbourg, où j'ai puisé énormément de matière, chaque fois que je ramasse un objet dans l'ébène, c'est 5 idées ou 10 idées à expérimenter, certaines qui n'aboutiront jamais, d'autres qui ont abouti à des choses vraiment qui m'ont dépassé et toute mon intention artistique, mais je voudrais effectivement parler aussi des matières auxquelles on ne pense jamais. Par exemple, je citais le spectacle Ishino Zazayaki, c'est un spectacle que j'ai créé en essayant de m'accaparer un univers existant d'un peintre graveur japonais qui s'appelle Mitsuo Shiraishi, où ce qui m'avait fasciné, c'est qu'il avait créé dans ses gravures qui sont très petites, j'ai compris après qu'il était hyper myope et qu'en fait il créait des liens implicites parce qu'il devait graver très proche de son image, chose que j'avais pas perçue parce que je savais pas qu'il était myope, mais ce que j'ai compris, c'est que il créait des relations d'objets qui mettaient en lumière l'absence d'un personnage qu'on ne verra jamais. Et c'est ça qui m'a fasciné, mais j'étais complètement incapable de transposer ça. Donc on a eu un terrain d'expérimentation de cette matière première par une résidence avec un auteur contemporain, Rémi Cecchetto. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais besoin de l'écriture et d'une vision. C'est que Rémi Cecchetto mette des mots sur cet univers pour que je puisse moi me le réapproprier et le transposer. Et ce qui était surprenant, c'est que plus Rémi Cecchetto mettait des mots sur les univers de Mitsuo Shiraishi, moins quand j'allais dans des bennes d'Emmaüs, je trouvais des objets qui étaient des objets Shiraishi. C'est-à-dire que je vois le monde, je vois plus un paysage, je fais plus un voyage sans voir des ambiances, des atmosphères. Et donc c'est une matière qu'on s'est appropriée, avec aussi des conflits comme il peut y en avoir avec le sable, ce qu'a évoqué Catherine Somstey, mais où tout d'un coup l'écriture, c'est devenu une écriture fleuve qui traverse les premiers hommes jusque dans nos cités actuellement. Et après, comment structurer tout cela? C'est-à-dire que c'est effectivement, et ce qui m'apparaît toujours, c'est dans mon travail et dans le travail des autres, c'est qu'effectivement la matière ne demande qu'à être accaparée, mais en fait celui qui s'approprie la matière, assez étrangement, alors que la matière aurait tendance à nous figer, parce qu'elle est lourde, parce qu'elle est contraignante, assez étrangement, elle nous fait toujours faire un chemin. Un chemin vers des choses qu'on n'envisageait pas. Et par exemple, ce qui était drôle, c'est comment la matière écriture de Rémi Cecchetto a pris le relais de l'absence des personnages dans les gravures de Mitsuo Shiraishi, c'est qu'un jour Rémi me dit comme ça, dis donc, pour t'écrire un truc, il faut être costaud parce que tu finis jamais tes phrases. Alors j'ai dit, écoute, chaque fois que je suis moins coincé entre trois points de suspension, balance-moi un haïku. Et il a pris ça comme une règle de jeu de sa matière d'écriture. Et dans le spectacle, c'est devenu vraiment une magie où une danseuse, en fait, égrène des haïkus avec une petite épuisette comme ça qui est des poses. Et c'est vraiment un contrepoint très léger par rapport à un roman fleuve comme ça où, à la limite, les spectateurs se rappellent pas du texte parce que c'est tellement dense. Mais la relation de la scénographie, des objets, donc hyper rationnel, et là c'est le graveur qui me mettait en scène. Il me disait, la chaise, cette matière là tu peux pas la mettre là ou là, mais tu as en gros, tu as 15 cm entre les deux et tu dois le respecter. Et donc moi j'ai dû, en tant que marionnettiste, travailler dans des espaces de tenants et d'aboutissants, de possible et de pas possible. Et ça, c'est, je trouve ça génial, parce que c'est là où on voit comment effectivement la matière artistique d'autres plasticiens, d'autres personnes qui ont une autre écriture, peuvent complètement enrichir le propos du marionnettiste et le résultat final.
Merci Gilbert. Gilbert Meyer, compagnie Tohu Bohu, dont on a vu lors de l'intervention d'Emmanuel Ebel quelques images.
Marion Chenet, je suis une vieille marionnettiste, enfin de l'ancienne garde, et j'aurais envie de poser, de tout ce que j'ai entendu, que j'ai trouvé très passionnant, j'ai quand même une question. Il a été très peu question de technique dans tout ce que j'ai entendu, et autour de la construction même d'une marionnette, il y a de la sculpture, il y a de la fonderie, il y a de l'assemblage, il y a plein de techniques. Or, j'aurais envie de poser la question du rapport entre les techniques et les matières.
Qui a envie de répondre?
Oui.
Marcel Violette.
Étant resté au stade de l'homo faber, je peux parler de ça. Effectivement, les matériaux, les matières se manipulent de différentes façons. Si on a affaire à une technique d'induction, on n'aura pas le même résultat que si on sculpte, que si on assemble, que si on modèle. Et chaque matériau a une spécificité technique, technologique, je dirais. Madame Chenet, vous êtes sans doute de la famille de Jacques Chenet, non? Bien fait pour vous. Si je suis entré en marionnette, c'est parce que lorsque j'étais petit garçon, j'ai vu un spectacle. Alors je ne sais plus si c'était avant la guerre, si c'était au printemps ou aux Galeries Lafayette, mais il y avait un spectacle de Jacques Chenet. Et c'était un choc tellement fort que c'est resté gravé quelque chose, quelque part dans des neurones, et que je suis rentré en marionnette à la suite de ça, mais beaucoup plus tard. C'est un des déclencheurs. Alors merci à Jacques Chenet. Jacques Chenet, d'ailleurs, qui était un créateur de marionnettes lui-même, mais qui n'a pas hésité à faire appel à des artistes comme Fernand Léger, par exemple, pour les boxeurs, qui étaient des marionnettes extrêmement modernes et très différentes de l'aspect, je dirais, réaliste des marionnettes de Jacques Chenet. Et ça aussi, c'est chapeau de pouvoir dire à un autre artiste, entrez donc dans la compagnie et montrez ce que vous savez faire, qui est très différent de ce que je crée moi-même. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Merci madame. Merci Jacques Chenet. Donc les matériaux ont une spécificité en fonction de la technique d'emploi. Et j'ai beaucoup travaillé avec Dominique Houdard sur beaucoup de spectacles. Et il y avait cette dialectique dont je parlais tout à l'heure entre celui qui pense, je dirais, et puis celui qui réalise les pensées du metteur en scène. Mais ça va dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire une influence du scénographe, du sculpteur, du facteur de marionnettes, j'aime beaucoup ce terme, sur la pensée du dramaturge, du metteur en scène. Et donc ce va-et-vient en fait, permet d'élaborer des matières. Et je voudrais juste parler d'une expérience qui était une journée mémorable pour le savant Monsieur Vous de Brecht. J'ai proposé à Dominique Houdard de créer sur scène un chœur constitué de comédiens porteurs de verbes, de sculptures en aluminium qui étaient porteuses d'images, et également le mélange des deux, c'est-à-dire une troisième lecture qui était les comédiens avec leurs marionnettes en train de manipuler. Et ça a été en fait une création d'idéogrammes dans l'espace qui racontait le savant Monsieur Vous. Et là, la matière a été absolument très importante, puisque j'ai travaillé des profilés d'aluminium et de duralumin. L'avantage du duralumin, c'est qu'il a une flexibilité extraordinaire. Alors, la relation avec les comédiens, un souvenir par rapport à ce spectacle-là, Jeanne Klein, qui est absolument géniale en tant que comédienne et porteuse de voix, je lui propose, il y avait un petit intermède où il y avait une lune qui se transformait en oiseau. Donc, le génie créatif, vas-y pépère, je crée une lune en aluminium qui se désossait, on pivotait le truc, et ça devenait un oiseau. Alors, avec la souplesse du duralumin, c'était extraordinaire. J'étais vachement content de moi. Je confie la forme à Jeanne Klein, qui n'a jamais été foutu de désosser la lune, et j'ai pris le truc et je l'ai foutu à la poubelle. J'ai fait une lune et un oiseau, toujours en duralumin.
Je suis désolée d'accaparer la parole, mais là, ce que vous touchez par rapport à la matière et tout ça, c'est quelque chose auquel j'ai été terriblement confrontée avec cette histoire de vidéo. Je me suis rendu compte à quel point on est des artisans, à quel point c'est agréable de pouvoir modeler, de pouvoir visser, de pouvoir poncer, et quand tout d'un coup on a un outil qui nous échappe parce qu'on ne sait pas manier le logiciel ou les logiciels, qu'il faut même les écrire, qu'il faut même les inventer, et ben on est obligé en tant que marionnettiste et en tant que tactile de trouver d'autres façons de faire. Et je dois dire que tout ce que vous dites là, moi ça me renvoie mais complètement à quand on est dans le virtuel, où est-ce qu'on va se récupérer sur ce virtuel là J'ai pas la réponse encore. Hein. Je sais que j'aime beaucoup, par exemple, régler l'équilibre des... Je dois monter des écrans et je les monte d'une main. Donc il faut que j'équilibre par rapport au poids de l'écran, par rapport au frottement de l'écran qui roule et par rapport au contrepoids que j'ai mis. Et ben, j'adore faire ça parce que je peux pas aller bidouiller dans le logiciel.
C'est moi, Jean-Paul Hubert, marionnettiste amateur. Enfin, oui, amateur. Bonjour madame, je tenais à rendre hommage à monsieur. Jacques Chenet. Jacques Chenet. J'étais soldat en Algérie et j'ai vu une émission où on interviewait Jacques Chenet et j'ai vu son magnifique signe à la main comme ça et la tête du canard. Et ça m'a tellement provoqué que j'ai décidé d'entrer dans le métier après avoir vu ce signe comme ça. Alors je voulais rendre hommage à mon tour à monsieur Jacques Chenet que je n'ai malheureusement pas connu. Voilà, c'est tout.
Merci. Alors, sur l'aspect technique, Elnat Landais souhaite intervenir.
Oui, c'est juste pour répondre à Madame Chenet sur la relation entre le choix de la matière et la technique de la marionnette. Effectivement, ça pour moi c'est étroitement lié à la demande du metteur en scène et la demande du spectacle. Qu'est-ce que cette marionnette doit faire ? Quelle fonction elle remplit ? C'est primordial pour le choix de la matière, en fait, et la technique. Et c'est en fonction de son rôle dans le spectacle qu'on va choisir déjà voir ce qu'elle a besoin de faire et donc choisir les matériaux qui correspondent. Et c'est vrai, par exemple, un spectacle comme Antigone de papier, si quelqu'un l'a vu, de Les anges au plafond, il y a un choix de matière parce qu'on veut justement sa fragilité. Le son, c'est, tout est fait en papier, donc on veut que le papier se déchire. Donc la fragilité, elle est demandée ici. Mais dans d'autres spectacles où on veut justement que ça fasse beaucoup de choses, mais qu'on ne voit pas la fragilité, on va choisir d'autres matières. Donc c'est vraiment étroitement lié à ça. Là, je dois faire des marionnettes de 2 mètres de haut et je me dis que on peut le faire maintenant. Je ne sais pas si il y a quelques années où il n'y avait pas les matériaux si légers de fibres de carbone, de plastes d'azote, de toutes ces légèretés de matière qui sont résistants et très synthétiques, je l'avoue, nous permettent de faire des choses plus performantes en fait. Donc voilà, ça évolue aussi.
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que la matière a sa syntaxe. Et je me souviens d'un spectacle de Jolie, qui à un moment donné, il y avait un personnage qui disait « Mon cœur brûle pour vous » et le personnage s'enflammait. Et c'était du théâtre de papier. Voilà.
Tragédie de papier, ça s'appelait, d'Yves Joly. Alors, ce qui était absolument génial, c'est que ces personnages étaient faits de bouts de Bristol très simples. Il y avait une femme, son mari et l'amant, trio classique. Et la femme, c'était une forme de lune, et les autres personnages, c'était un rond avec juste un signe nez dessus, le nez. Et ce qui était fabuleux, c'est que ce drame se noue entre ces trois personnages et que effectivement un des personnages est brûlé, c'est-à-dire qu'Yves Joly a eu ce génie d'utiliser le matériau. Il y en a un autre qui est coupé avec des ciseaux et le troisième est déchiré. C'est-à-dire qu'il a utilisé ce côté tragique du matériau en utilisant... Ah oui, c'est un vrai drame de matériaux. Et ça, bon, on va pas épiloguer sur Yves Joly, qui a été un personnage, et qui est toujours un personnage extrêmement important dans l'histoire des marionnettes récentes. Faut pas oublier que c'est lui qui a carrément viré la marionnette. C'est-à-dire qu'il a remplacé la marionnette par sa main nue, ou sa main gantée. C'est le sommet de la marionnette. Je veux dire, les constructeurs, ils peuvent toujours s'aligner pour essayer de faire mieux.
Oui, je m'appelle Armel Marin, merci de me donner la parole. Je n'ai absolument pas l'expérience des uns et des autres, le talent des mêmes. Je suis un grand commençant. Et ce qui m'a donné le courage de prendre la parole, c'est ce que vient de dire ce monsieur quand il a évoqué le fait qu'un jour il a été en Algérie. Depuis l'année 1960, une fois tous les 10 ans, j'écris quelque chose sur la guerre d'Algérie, et récemment, donc, il y avait à nouveau 10 ans de plus, j'ai écrit quelque chose qui se présente comme une pièce avec 5 acteurs et différents accessoires. Et ayant des petits-enfants, j'ai eu une idée qui me paraît fulgurante, c'est d'y mettre également, pas à la place des acteurs, mais d'y mettre des marionnettes. Je n'ai pour moi que mon innocence. Des marionnettes, j'en ai vu, j'en ai touché, j'en ai fait une ou deux fois, j'ai vu des spectacles de marionnettes, et la question est, si dans cette salle il y a des personnes qui veulent bien m'aider, qui peuvent s'intéresser à la guerre d'Algérie en 1960 en particulier, et éventuellement à une pièce... certainement très bonne, qui s'appelle Farandole 60, eh bien je serais heureux que l'on m'aide, car j'ai l'impression que j'ai vraiment tout, mais tout à apprendre. Merci beaucoup, je m'appelle donc Armel Marin.
Merci.
Raphaël Fleury, chercheur et chargé du portail des arts de la marionnette. Juste une petite chose, on a parlé du choix de la matière en amont de la mise en scène, la tension entre parfois l'envie d'asservir un matériau à ses intentions et réciproquement le fait qu'on commence par choisir un matériau et c'est celui-là qui dicte la dramaturgie. Mais on n'a pas beaucoup parlé de l'accident sur scène, qui n'est pas toujours lié à un défaut de construction de la marionnette, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de praticiens qui pourraient nous parler d'un moment où une marionnette en fibre de fer leur a méchamment écorché la main et où ils se sont mis à saigner au milieu du spectacle, ou une colle qui tout d'un coup sous la chaleur des projecteurs se délite et on se retrouve avec une gaine dont la tête est séparée du reste du corps. Ce type d'accident qui sont liés aussi à l'usure, à l'évolution du matériau au fil du temps et de sa pratique. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de tout ça?
J'irais même jusqu'à dire que moi, il m'est arrivé de construire un spectacle pour qu'il ne tienne pas. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai fait une sculpture qui parlait de la famille. Et la famille, on sait bien tous que c'est quelque chose qui ne tient pas toujours complètement bien ensemble. Et donc, en fait, j'ai, d'une façon très inconsciente, fait que les choses ne marchent pas toujours comme il faut. Et tout le jeu consistait à voir où ça allait lâcher. Et bien, ça donne une vraie tension dramatique. Hein. Ça, je vous garantis. J'ai arrêté le jour où les choses qu'il fallait qu'ils marchent vraiment se sont mis aussi à ne plus marcher.
Il y a une intervention de Michel Monsieur, je crois. Et puis on aura juste une dernière intervention.
Merci, je m'appelle Michael Meschke et j'ai vécu la plus grande partie de ma vie en Suède. Et, si vous voulez savoir comment devenir le mouton noir de la marionnette moderne en Europe dans les années 50, je vous donne un exemple qui est aussi une réponse à votre question. On joue dans le premier festival d'après-guerre à Braunschweig chez mon maître Aro Siegel en Allemagne, en pleine ruine encore. Il y a tous les grands maîtres de la marionnette contemporaine dont je pourrais parler à Londres et qui sont tous disparus, mais on en parle encore, et entre autres Jacques Chenet, et, mais aussi d'autres. Alors, on joue le comte d'Hoffmann avec des marionnettes à fil et sur un pont de 4 mètres d'auteur classique. Le spectacle est terminé, les applaudissements commencent. Alors, à la manière très traditionnelle, je fais incliner les marionnettes en avant pour prendre les applaudissements. Et en haut, sur le pont de 4 mètres en haut, il y a donc la compagnie, et 6 personnes, 6 marionnettistes, qui s'inclinent aussi. Alors, faute d'une petite vis, donc comme ça, le castellet entier tombe sur le public. C'est ainsi qu'on devient moderniste. En fait, un critique, monsieur le fameux docteur Pourschke à l'époque, on n'aurait pas pu imaginer une fin plus hoffmanesque. Un spectacle scurril et abstrait comme ça. Alors, les têtes, ils m'envolent. Je parle des têtes de marionnettes. Des jambes, des pieds, des corps, des morceaux de corps et des marionnettistes. Parce qu'on tourne quand même d'une hauteur de presque 2 mètres. Et quand le nuage disparaît, vous étiez là avec des bouts de marionnettes dans la bouche, ouvert. On est désespéré parce que c'était le début d'une tournée en Allemagne qui devait continuer dans une autre ville le lendemain. Alors vous pouvez imaginer comment des marionnettistes passent la nuit pour réparer, pour chercher de petits bouts, en plus que ces têtes de marionnettes était fait d'une matière absolument ratée pour des marionnettes, mais j'avais mes motifs pour les faire. C'était des têtes en argile. Alors imaginez de ramasser les petits morceaux et coller tout ça. Et le lendemain, on a pu continuer. Merci.
J'ai une histoire à raconter.
Cet après-midi.
François Lazaro, Classique Théâtre. Je voulais réinsister sur une notation qu'a fait tout à l'heure Marcel Violette, parce qu'elle renvoie sur d'autres choses, en parlant de la relation entre le matériau et la personne qui manipule. Et je voudrais réinsister parce que précisément sur un spectacle de Dominique Oudard, scénographié par Marcel Violette, l'un des acteurs qui était Busy à garder me disait son pas sa terreur, mais son inconfort à manipuler avec des marionnettes en résine synthétique. Il avait horreur des résines synthétiques. Et le fait d'interpréter dans ces conditions était une véritable torture pour lui. Et c'est un comédien d'une très grande qualité. Et c'est vrai que dans certains stages, on constate que certaines personnes ont des aversions particulières, notamment avec les matériaux synthétiques, les mousses de polyuréthane, des choses comme ça. Ils sont placés dans des situations très inconfortables, voire même dans l'impossibilité de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose, alors qu'avec d'autres matériaux, tout à coup, des gens se découvrent, alors qu'ils n'avaient jamais pensé à ce matériau-là, une capacité de transmettre, de laisser surgir, d'être traversé par le matériau tout à fait étonnant. Et ça me fait réinsister sur le fait qu'entre, on est dans un domaine de l'interprétation. C'est-à-dire, il y a bien sûr l'interprétation du metteur en scène, celui qui, à travers la matière, a une idée originelle et tout à coup va essayer de l'exprimer. Et il y a bien sûr l'interprétation définitive, celle que le public va opérer au moment où il va voir l'action. Et entre les deux, il y a l'interprète. Et cette interprétation, elle demande du temps. Et il va falloir, c'est une notation très juste de Philippe Gentil, tout au début, avec le marin et le vent, faire toute une multiplication de stratégies pour arriver à obtenir de l'interprète le meilleur de lui-même, le mettre en confiance avec le matériau et le mettre en condition de laisser émerger de ce matériau ce que nous on attend, ce qu'on rêve de retrouver ou de revoir. Et chaque matériau nous transporte sur des temps terriblement différents. Enfin, peut-être que l'ESCO, peut-être pas aujourd'hui, pourra prolonger ça, mais je sais que tu es sensible à cette dimension de relation entre le temps et le matériau. Voilà.
Alors, on doit conclure très provisoirement, puisqu'on va se retrouver cet après-midi, bien évidemment, avec la suite de la rencontre. Et il y a une remarque que souhaitait faire Emmanuel et Belle. Voilà, donc c'est une conclusion très provisoire.
Alors, je n'avais pas prévu de conclure. Je voulais répondre notamment à cette question qui avait été posée par Marion Chénet sur le rapport entre la technique et la matière. Et je me disais que finalement, une des choses intéressantes avec la matière au niveau technique, c'est que ça oblige le marionnettiste à se confronter à ce que la matière ne peut pas faire, ce que vous disiez tout à l'heure, et du coup ce qu'elle ne permet pas, la matière, ce en quoi elle ne répond pas aux attentes, oblige le manipulateur, mais aussi du coup le spectateur à emprunter des détours, à prendre des chemins de traverse qui peuvent paraître stériles ou frustrants dans un premier temps, mais parce qu'ils ne vont pas directement au but, parce qu'ils ne nous amènent pas directement dans une droite ligne de ce qu'on aurait pu imaginer. Et en même temps, ces chemins de traverse nous amènent à découvrir de nouveaux territoires. Et donc, l'invention de nouvelles techniques liées aux contraintes de la matière va ouvrir l'imaginaire et va proposer de nouvelles ressources. Et je trouve que c'est peut-être par la négative qu'on peut répondre à cette question de comment aussi s'articule la matière et la technique.
Merci à tous les intervenants.